C'est aujourd'hui seulement un essai que nous allons faire. Nous n'allons pas toujours faire les choses ainsi. Mais une fois, nous voulons voir comment est-ce que cela, comment ça marchera. Nous mettons beaucoup de valeur sur votre jugement. L'unique pensée que nous avons est la suivante. Nous voulons servir un plus grand nombre de personnes le plus possible. Et dans la langue française, nous avons un très grand nombre de frères et de sœurs. Il y a beaucoup de pays ou bien tout un nombre de pays en Afrique où il y a de très grandes réunions. Nous vous l'avons déjà dit ici, 3, 4, 5, 8 000 personnes, c'est normal. Quand on va là-bas pour prêcher. Et la pensée qui nous occupe, qui nous touche, c'est aussi de servir ces hommes. Nous avons, en langue française, déjà beaucoup de prédications qui existent, mais nous avons aussi beaucoup d'opinions différentes sur ces prédications. Et nous avons espéré que sur tout, la clarté serait venue sur tout, selon la parole de l'Écriture, que tous les mystères du Dieu seront révélés. Et nous constatons qu'il y a encore beaucoup d'éclaircies sont venues. Et qu'il y a beaucoup de confusions qui sont venues. Et de nouvelles séparations et divisions sont venues, des discordes. Auparavant sur la parole et maintenant sur les prédications et sur le message. Et vous pouvez vous imaginer que les frères et les sœurs aussi qui sont sincères veulent savoir alors qu'est-ce qui est vraiment correct et exact. Et maintenant, quelqu'un pourrait penser qui veut se donner l'autorité, s'approprier l'autorité pour dire ce qui ici, ce qui est prêché ici est contraignant et est correct. Cette autorité ne vient pas de nous. Cette autorité vient de Dieu. Elle vient de la parole de Dieu. Et c'est peut-être raison qu'elle est l'autorité divine. Et c'est peut-être raison que ce que la parole de Dieu dit est pour nous contraignant. Cela nous lie. La grâce que nous avons reçue est exceptionnelle. On ne trouve pas de parole pour exprimer cela. Et d'écrire cela, mais nous n'avons pas un enseignement à défendre, pas de connaissances particulières que nous devrions fonder et justifier. Non, nous sommes absolument libres devant la face de Dieu d'annoncer tout le dessein du salut de notre Dieu, de pouvoir annoncer tout le dessein du salut de notre Dieu. Nous n'avons qu'une seule obligation et elle est en face de Dieu, envers Dieu. C'est devant lui que nous voulons subsister. Et c'est de ça qu'il s'agit maintenant. C'est pour cette raison que tout va vers cette direction d'apporter l'Église dans cet état où elle sera prête à rencontrer le Seigneur. Et cela sera nécessaire que nous puissions mettre nos propres pensées de côté et que nous puissions croire comme dit les Écritures. Je sais qu'il y a des hommes qui existent, qui ont placé la parole du frère Branham au-dessus des Écritures. Et je pense particulièrement à un homme qui, vu tristement, avait le plus grand succès parmi ceux que je connais. Il avait des foules qui venaient de plus de 100 000 personnes. Et un jour, il disait, la parole de frère Branham est plus élevée que celle des Écritures. La parole de l'Écriture. Et ça a été le commencement de sa fin. Depuis lors, il a dégringolé. Ça ne peut pas être ainsi. Une fois, frère Branham s'est trompé. Au lieu de dire 7000, il a dit 700. Dans les jours d'Élie, il est écrit que Dieu disait, je me suis réservé encore 7000 qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Et frère Branham a réellement dit, Dieu s'est réservé encore 700 personnes. Et alors cet homme dit, c'est une révélation. Je veux garder pour moi mon opinion là-dessus. Je me tiens ici devant. Mais il y en a qui ont perdu le sens. Et se pense sage. Même un prophète n'est qu'un homme. Et un prophète est aussi un prédicateur. Et tout ne doit pas être toujours ainsi dit le Seigneur. Mais à chaque fois qu'il dit ainsi dit le Seigneur, alors c'était, c'est et ce sera toujours ainsi dit le Seigneur. Et aussi cette grâce, Dieu nous l'a accordée. De distinguer dans les prédications, quand est-ce que, comme prédicateur, il prêche, ou bien alors, et quand est-ce que, comme prophète, il parle contraignant, de manière contraignante. Et vous direz, mais ça, c'est très difficile à distinguer. Comment est-ce que nous saurons, alors, quand est-ce qu'il... Mais ne vous inquiétez pas là-dessus. Ce souci, Dieu nous l'a confié. À nous, vous avez seulement besoin de lire les Saintes Écritures et de comparer, seulement de comparer, c'est tout. Et alors vous aurez toujours le ainsi dit le Seigneur devant vous, par les Saintes Écritures. Tout ce qui est parole de Dieu est ainsi dit le Seigneur. Et tout ce qui est en conformité avec la parole de Dieu, c'est de toute manière conforme, correcte. Et c'est ce qui compte. Il faut que ce soit en accord avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons spécialement traiter le sujet du retour du Seigneur. Pour nous tous très connus, mais pour beaucoup d'autres, un grand problème. Et nous allons mentionner plusieurs choses. Peut-être que ce ne sera pas... Ça vous servira pas à vous, mais sûrement à beaucoup d'autres. Une prédication ne doit pas toujours être pour moi, bien pour toi, ou bien pour nous, mais elle peut être aussi pour d'autres personnes. Mais ce qui est certain, c'est que dans chaque prédication, il y aura toujours quelque chose pour chacun. Je voudrais particulièrement lire de deux chapitres des Saintes Écritures. Dans Jean chapitre 14, et Jean chapitre 16. Comme première chose, Jean chapitre 14. Ici, nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 3. Que votre cœur ne se trouble pas, ayez confiance en Dieu et ayez confiance en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Car je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serais allé et que je vous aurais préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. une parole très claire. On n'a pas besoin d'aucun homme pour venir nous interpréter cette parole. Une promesse puissante que le Seigneur a donnée aux siens. Je m'en vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. De ces Écritures, il en ressort clairement que le Seigneur est allé dans la gloire, dans la maison de son Père, et qu'il prépare là-bas une place. Et là, là-bas, les demeures sont pour nous, préparées. Est-ce que c'est ainsi? Alors ensuite, il a donné la promesse, je reviendrai après que je vous aurai préparé une place et je vous prendrai avec moi pour que vous soyez là où je suis. Et que cela c'est aussi clair. Où serons-nous alors quand il reviendra nous prendre? Là-bas où il a préparé la place. Sûrement pas ici sur cette terre, après nous avoir pris, ou bien alors quelque part, mais là-bas, car il est allé là-bas pour là-bas nous préparer une place, et il revient, c'est à cela que nous attendons, ça c'est l'espérance, une espérance vivante en nous, qu'il accomplisse sa promesse. Et qu'il accomplira sa promesse et qu'il reviendra pour nous prendre auprès de lui. Je continue à lire. Au chapitre 14, verset 18. Le même chapitre, verset 18 maintenant. Cela concerne maintenant toute une autre venue. Je vais lire trois écritures qui traitent le sujet qui concerne toute une autre venue. Chapitre 14, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Je vis. Et vous vivrez aussi. Je continue à lire le verset 23. Jésus lui répondit en disant, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Je lis encore une écriture, le verset 27 et le verset 28. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne soit pas troublé, qu'il ne se trouble pas. Vous avez appris que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. J'ai lu maintenant trois écritures qui parlent tous de la venue du Seigneur. Mais de quelle venue? De sa venue pour établir sa demeure en nous, pour habiter en nous. Pas de son retour pour nous prendre auprès de lui dans la gloire. Mais concernant la venue, sa venue pour habiter dans ceux qu'il a rachetés. Et ça, ce sont les versets qui sont mal compris par les frères. Mais soyez sincères avec, soyons sincères avec nous-mêmes, avec Dieu et avec les autres. Est-ce que on ne sent pas ici de quoi il est question ici très clairement? Jésus était encore sur terre. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous. Et ensuite, le temps devait arriver où il sera en nous. Et ça, c'est la promesse. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Le verset 18. Le verset 23, ensuite. La deuxième partie du verset 23. Et nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Maintenant, verset 28. Je m'en vais et je reviens vers vous. Dans ces trois écritures, il n'est pas parlé de ce que il vient pour nous prendre auprès de lui dans la gloire, dans l'enlèvement, mais qu'il vient pour habiter en nous. C'est pour cette raison que Paul pouvait écrire Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors qu'il marchait ici sur cette terre, il était parmi nous, au milieu de nous. Mais depuis qu'à Golgotha, il a versé son sang et qu'il a payé le prix et qu'il nous a rachetés, il est monté au ciel et en esprit, il est revenu pour habiter dans les siens. Tout est écrit dans le même chapitre 14, au chapitre 14 de Jean. La promesse qu'il va pour nous préparer une place, premièrement, et cela dans la maison de son Père. Mais quand il l'aura préparé, alors il reviendra pour nous prendre auprès de lui dans la gloire, là-bas. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose est la suivante. Qu'il a promis d'habiter en nous, d'être en nous, de prendre possession, demeure en nous. Et c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Depuis la Pentecôte, le Seigneur a pris demeure dans son peuple. Cette venue est toute une autre venue. Elle a eu lieu le jour de la Pentecôte. Et je vais aussi vous le montrer maintenant dans cette écriture de la Bible. Que l'Esprit de Dieu a été répandu et que l'Esprit agit de manière diverse, multiple. Nous lisons dans Jean chapitre 16, à partir du verset 7. Jean 16, dès le verset 7. Mais je vous dis la vérité, il est bon pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, celui qui vous aide ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il ouvrira les yeux du monde sur le péché. Quand est-ce que cela s'est passé? Depuis quand est-ce que cela s'est passé? Depuis la Pentecôte. Ce n'est pas nous qui ouvrons les yeux du monde. Ce ne sont pas nous qui les attirent. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Il est écrit ici. Et quand il sera venu, il ouvrira les yeux du monde. Pas d'abord les croyants, mais le monde, pour qu'ils puissent voir ce que Dieu a fait pour eux, pour qu'ils puissent ensuite venir à lui. Quand le Consolateur sera venu, alors il ouvrira les yeux du monde. Sur quoi? Ici, il est écrit, il y a trois choses que j'ai énumérées ici. Sur le péché, et sur la justice et sur le jugement. Ça, ce sont les trois choses que l'Esprit produit, accomplit dans les hommes. Ensuite, suit l'explication au verset 9. Sur le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, sur le péché de l'incrédulité. Et là, nous sommes arrivés au point que Frère Branham a beaucoup souligné. L'incrédulité est la chose avec laquelle tout a commencé. L'incrédulité en face de ce que Dieu avait dit. Et ici, il est écrit que quand l'Esprit sera venu, il ouvrira les yeux du monde. Comme première chose sur le péché. Et ensuite, sur l'explication, dans la Bible, pas de moi. Au verset 9. Sur le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Prenez le verset de Jean 5. Si vous ne, de Jean 8. Si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8. Est-ce que vous remarquez comment est-ce que les Saintes Écritures sont en accord? Ensuite, il est écrit ici, peut-être encore la première chose, au verset 9, sur le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Ensuite, au verset 10, sur la justice que je vais au Père et que désormais vous ne me verrez plus. Corporellement, il n'était plus à voir. Vous pouvez aller à Luc 24. Il a pris ses disciples jusqu'en Bethanie et ensuite, sous leurs yeux, il est monté au ciel jusqu'à qu'ils ne l'ont plus vu. Et depuis ce jour, depuis ce temps, ils ne l'ont plus vu. Mais il avait dit, je serai avec vous. Il a dit, un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai en vous. C'est pas, il n'y a pas de contradiction ici. Tout à sa place, dans le contexte. Vous ne me verrez plus dans mon corps de chair, mais vous me verrez en esprit présent dans l'assemblée des saints. Nous lisons encore plus loin, au verset 9, au verset 10, pardon, sur la justice que je vais au Père, verset 10, et que désormais, vous ne me verrez plus. Je vais encore écrire là-dessus. Il y a un verset ici, dans le même chapitre, le verset 27. Là, il est écrit, car lui-même, le Père, vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Ça, c'est le mystère. Pas qu'il était à côté de Dieu, mais qu'il était en Dieu. Sorti de Dieu. Ça, c'est le mystère dans Jean 17. De croire qu'il était sorti de Dieu. Mais j'ai déjà la brochure terminée en anglais. Et je ne veux pas maintenant saisir les choses à l'avance, mais il y a des mystères dans la parole de Dieu. Ils sont si importants. Et c'est en cela qu'on reconnaît est-ce que Dieu nous a révélé quelque chose ou pas. Ou bien alors, est-ce que c'est avec notre entendement que nous avons réfléchi? Tous dans ce temps lisent Jean 17. Et disent et parlent que nous devons et en parlent que nous devons être un. Mais cela va à cela que nous devons croire que le Père, que le Fils est sorti du Père. Je vais vous le lire dans Jean 17, Jean 17, versets 7 et 8. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données. Et ils les ont reçues. Et ils ont connu en vérité que je suis sorti de toi. Je le répète encore une fois, je le dis encore une fois. Ça, c'est le mystère. Que je suis sorti de toi. En origine, dans l'éternité, la plénitude de Dieu était comme esprit et lumière. Et c'est de cette plénitude que le Seigneur est sorti, comme logos, comme le logos, comme la parole, comme l'apparition visible du Dieu invisible. Il n'était pas quelqu'un d'autre à côté de Dieu. Il était Dieu lui-même. Il est Dieu. Il sera Dieu dans l'éternité. Mais il devait devenir homme à cause des hommes. Et ici, comme nous l'avons lu, vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je le répète encore une fois. Pas comme cela est enseigné en général, qu'il était à côté de Dieu et que Dieu l'a envoyé sur terre et a regardé comment est-ce qu'il souffre ici. Ce ne serait même pas juste. Si Dieu assumait toute la responsabilité, et se soustrayait aux souffrances qu'il s'est imposées comme mission, aux souffrances, ce ne serait pas une bonne chose. Si moi j'ai à assumer une responsabilité et que ensuite je laisserai mon fils en assumer les conséquences et je regarderai simplement, ce ne serait pas une bonne chose. Mais ce n'était pas ainsi justement, ce n'était pas comme ça. Le fils est le Père lui-même manifesté en forme humaine. Et malgré tout, resté esprit et a été au ciel et manifesté sur terre, étant au ciel. Mais ici est le mystère. Vous avez cru que je suis sorti de Dieu. L'union maintenant à la fin, peut seulement avoir lieu avec ceux qui croit cela comme le dit les Écritures. Et comme cela est dit, nous écrivons maintenant là-dessus. Cette autre union sera l'unité du monde entier, l'union du monde entier. Ça, ce sera une union avec des ententes. Mais l'union avec Dieu, l'unité avec Dieu, est l'union en esprit. Un dans la parole. Tout un. Tout en un. La même parole, le même esprit, la même vie, tout la même chose. Mais avant toute chose, surtout de croire comme l'a dit les Écritures. De croire qu'il est sorti de Dieu. Et il a dit, je retourne à Dieu. Et alors que Saul était sur le chemin de Damas, il avait vu, n'est-ce pas? De nouveau dans la lumière, qui brillait plus que le soleil à midi, plus fort. Et à Damas, le soleil brille fort. Il est très chaud et très, très clair. Et il était encore plus clair que le soleil qui brille à midi à Damas. Dieu est lumière et habite dans une lumière inaccessible. Et malgré tout, il peut se révéler, se manifester comme il veut, où il veut et quand est-ce qu'il le veut. Continuons à lire dans Jean 16, verset 11. sur le jugement que le prince de ce monde est jugé. Jean 16, verset 11, est jugé. Il y avait trois choses que l'Esprit révélerait. D'abord sur le péché, sur la justice, et ensuite sur le jugement. Sur la justice et sur le jugement. Sur le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Sur la justice, que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Sur le jugement, que le prince de ce monde est jugé. Le frère Guy Jay, dans la prière, utilise toujours une belle parole. Que Satan est vaincu. Et que toute la puissance, tout le pouvoir des ténèbres, de l'enfer, sont vaincus. Et nous voulons croire cela. Satan a été déjà jugé. La tête du serpent a été déjà écrasée. Écrasée. Sa tête a été écrasée. C'est une œuvre déjà accomplie. Le prince de ce monde est jugé. Est-ce que l'Esprit te l'a déjà révélé? Rendu cela vivant? On peut déjà dire oui aux deux premières choses. Mais est-ce que la troisième chose appartient aussi à ça, à la révélation? C'est le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Cela est réglé en nous. Nous croyons en lui. Nous croyons qu'il est le Fils de Dieu. Ça, c'était sa destination ici sur cette terre. Et si nous voulons chasser des démons, alors il y a deux formulations qui obligatoirement appartiennent à cela. Si nous disons, si nous voulons dire quelque chose qui doit avoir de l'autorité, car au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ou bien alors au nom de Jésus-Christ, du Fils de Dieu. Si ces deux choses ne sont pas dites, ou bien alors, l'une des deux ne sont pas dites, alors on pourra faire comme Frère Branham l'a dit une fois. Si on vient dans des pays latins, par exemple au Mexique, à Mexico, deux troisième personnes s'appellent Jésus et deux troisième personnes s'appellent Marie. Ce n'est pas à croire. Mais tout s'appelle Jésus. Même des hommes s'appellent Marie. Hein? Pour nous, c'est incompréhensible. Mais ce sont des surnoms qui sont donnés comme ça. Mais il n'y a qu'un seul et unique qui peut être désigné tel que nous le désignons. Au nom de Jésus-Christ, du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Là, il n'y en a qu'un seul. Et il n'existe pas au Mexique. Il est au ciel. Et il est parmi nous, au milieu de nous. Et il n'y a qu'un seul Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait eu un Jésus Syrah. Il y a différents Jésus. Mais il n'y a qu'un seul Jésus-Christ de Nazareth. Le Fils de Dieu. Et c'est en cela qu'est continue l'autorité de Dieu. Parce que nous reconnaissons cet ordre divin. Ça, nous l'avons expérimenté aussi. Aussi la deuxième partie, sur la justice que je vais au Père. De quoi il s'agissait ici maintenant? Il disait, si je ne vais pas, alors le Consolateur, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Mais il a rapporté la justice au peuple de Dieu. Il nous a justifiés à Golgotha. Sur la justice que je vais au Père. Car si je ne vais pas au Père, alors l'Esprit ne pourra pas venir. Mais quand je serai allé, alors l'Esprit viendra. Vous pouvez comprendre cela? C'est très clair. Mais aussi la troisième partie, nous voulons s'il vous plaît la prendre à cœur. Sur le jugement. Que le prince de ce monde est jugé. Ce Satan, ce vieux serpent, ce serpent ancien, a été jugé pour que nous puissions être acquittés. Et nous sommes aussi reconnaissants à Dieu pour cela. Ensuite, au verset 12, le Seigneur dit, j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand sera venu celui qui est l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais ce qu'il entendra, il le dira. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, car c'est de mes biens qu'il prendra et qu'il vous annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il le prend de mes biens et qu'il vous l'annoncera. Et là aussi, frère Branham l'a dit de manière si belle. Tout ce qui était en Dieu s'est déversé en Jésus-Christ. Et tout ce qui était en Jésus-Christ s'est déversé dans l'Église. Entièrement un avec Dieu. Oh, que cette union divine puisse se réaliser. Que tout ce qui pourrait être un obstacle à cela soit mis de côté. Parfois, ce sont les choses terrestres qui sont un obstacle pour les choses spirituelles. Et nous devrions reconnaître que les choses spirituelles sont plus importantes que les choses terrestres. Nous devons regarder au-dessus des choses terrestres et marcher, continuer à marcher notre chemin avec Dieu. Nous remarquons la chose suivante de cette observation de la parole. Une promesse concerne le retour de Jésus-Christ. Quand le temps de la grâce va vers sa fin et qu'il revient, donc arrive à sa fin et qu'il revient pour prendre les siens dans la gloire, là où il a préparé la place pour eux, dans la maison de son Père. Et ici, les autres Écritures, versets bibliques, parlent de ce qu'il voulait revenir. Mais c'était encore pendant qu'il marchait sur cette terre, avant même la crucifixion. Il a parlé de ces choses. Et il est revenu le jour de la Pentecôte pour habiter, prendre demeure dans les rachetés, dans les croyants, les vrais croyants. Depuis la Pentecôte, cela est valable. Depuis la Pentecôte, l'Esprit de Dieu convainc le monde du péché. Depuis la Pentecôte, l'Esprit de Dieu agit. Mais quand le Seigneur a dit, je reviens à vous, je ne vous laisserai pas orphelin. Et quand il dit, j'habiterai en vous, je serai en vous, et ensuite, je vais, mais je reviens. Alors nous comprenons cela très bien. Il est allé et il a apporté le sacrifice sur l'autel. Et comme fidèle souverain sacrificateur, il est entré dans le sanctuaire céleste pour exécuter une rédemption éternelle. C'était nécessaire d'apporter le sang versé sur le trône de la grâce, sur le propitiatoire. Parce que le souverain sacrificateur ne pouvait pas entrer dans le sanctuaire sans sang. Le sang était la réconciliation. Le sang était le pardon. Dans le sang, il y avait la vie. Et maintenant, la vie a été libérée. Pour ensuite revenir sur la troupe des rachetés. C'est ça tout le mystère. Christ maintenant en nous. L'espérance de la gloire. Et malgré tout, il reviendra tel qu'il a promis. Avec grande puissance et gloire, nous allons encore lire les autres versets. et spécialement les versets d'Apocalypse 10. Il y a beaucoup, beaucoup d'écritures qui parlent que le Seigneur reviendra. Mais je voudrais souligner celle-là. Vous allez tout de suite voir la raison. Apocalypse chapitre 10, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange puissant, enveloppé dans une nuée. L'arc-en-ciel était au-dessus de sa tête. Son visage ressemblait au soleil et ses jambes à des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa alors son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il appela d'une voix forte comme un lion rugit. Quand il eut ainsi crié, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Lorsque les sept tonnerres eurent parlé, j'allais l'écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui me criait. Scelle ce que les sept tonnerres ont dit et ne l'écris pas. Ce que je dis maintenant, je le dis à cause de ceux qui ont des difficultés avec cette écriture, avec ce verset. Je ne le dis pas pour critiquer. Et encore moins pour m'élever. Je le dis pour aider. Tous ceux qui prétendent que le Seigneur Jésus est déjà revenu, en se référant à cette écriture, en se référant au 28 février 1963, donc du 28 février 1963, oui. Et ceux qui se réfèrent au 28 février 1963, alors que le Seigneur était descendu dans la nuée, et prétendent que ça, c'est l'accomplissement d'Apocalypse 10, que c'était l'accomplissement d'Apocalypse 10. Je veux leur donner la chose suivante à réfléchir. Et cela avec la dernière autorité de la parole de Dieu. Écoutez ce qui est écrit ici. Ici, l'ange qui était descendu tenait entre ses mains un livre ouvert. Le 28 février 1963, il n'y avait pas encore de livre ouvert. C'était seulement l'annonce que cela sera ouvert. Que Frère Branham doit retourner à Jeffersonville pour que les sceaux soient ouverts, en fait. Les sceaux, les sept sceaux. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela est vrai? Ils peuvent prétendre que cela était l'accomplissement, ici d'Apocalypse 10, si ici le livre est déjà ouvert. Donc, c'est-à-dire que cela doit avoir été après l'ouverture des sceaux, Apocalypse 10. Mais quand il apparaît là-bas, dans les nuées, il avait donné l'annonce que cela allait arriver. Alors comment ça peut être arrivé en 63? C'est inclus, c'est exclu. L'ordre divin reste éternellement valable. Je vais vous le lire. D'Apocalypse chapitre 5. Et s'il vous plaît, retenez sous vos yeux, ici à cet endroit, dans toute l'Afrique, dans le monde entier, partout où cette réunion sera écoutée, seulement parce que nous portons l'amour de Dieu dans notre cœur, nous ne jugeons pas. Mais nous voulons aider. Ça, c'est notre devoir. est dit avec la parole de Dieu. Je le répète encore une fois. Alors que le Seigneur avait apparu dans la nuée, il n'avait même pas de livre dans la main. Ni un livre ouvert, ni un livre fermé. Il n'avait même pas touché la terre. Il était dans les nuées, dans la nue. Frère Branham décrit même la hauteur du nuage. Et là, il lui a été dit là-bas, retourne à Jeffersonville, car le temps d'ouvrir les sept sceaux est arrivé. Est-ce que cela est vrai? Le 28 février, août, à 100% vrai. Si je disais ici, ainsi dit le Seigneur, je n'aurais pas fait d'erreur de le dire. Ce serait vrai. La parole de Dieu est certaine. Mais on doit être déterminé à la dispenser, à la distribuer, à la porter. Et quand je pense que des frères autrefois étaient encore des nouveau-nés, ils même pas encore, n'avaient pas encore cru, mais et quand même, ils prétendent que le Seigneur serait déjà revenu à cet endroit. Et ils sont là. Alors qu'ils n'étaient pas à l'époque croyants. Ça voudrait dire en fait que le temps de la grâce en 63 était arrivé à sa fin. Mais ce n'était pas le cas. Mais pas pour eux. Pas pour eux, il y a encore beaucoup de grâce justement. Hein? N'est-ce pas? C'est pour les autres que c'est passé. Hein? Non. Non, pas comme ça. Pour eux, c'est encore la grâce. Le temps de la grâce, c'est seulement passé pour les autres. Non. Dans Apocalypse, chapitre 5, l'un des chapitres les plus puissants dans les Saintes Écritures. Élevé majestueux au-dessus de tout celui-ci, il est écrit. Apocalypse 5, verset 1. Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit. En dedans, écrit en dedans et scellé de sept sceaux au dos. Puis je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux. Le livre était encore fermé, était encore scellé. De sept sceaux. Comment est-ce qu'il peut avoir été ouvert alors? Dans Apocalypse 10, c'était un livre ouvert par contre. Mais ici, c'est encore un livre fermé. Dans Apocalypse 5. Et cela, c'était avant l'ouverture des sceaux dans Apocalypse 5. La question était, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux? Et d'en délier ses sceaux. Mais personne dans le ciel et sur la terre, ni sous la terre, n'a pu ouvrir le livre et voir son contenu. Moi, il s'agit seulement d'une seule pensée pour moi. C'est de cette pensée-là ici que je voudrais transmettre à tous les frères et les sœurs, à tous ces frères et ces sœurs, pour les aider. Par amour, les servir. Et je me répète avec cela. Alors que la nuée descendit, le 28 février 1963, c'était l'annonce qui fut faite que les sceaux doivent être ouverts. Mais le livre était encore fermé. Il était encore scellé. Et le Seigneur n'a pas apparu là-bas avec un livre ouvert. Il n'a pas mis un pied sur la terre et la mer. Il n'a pas rugi comme un lion rugit. Encore moins des sept tonnerres auraient entendu faire entendre leur voix ou bien parler. Encore moins. Tous les contextes d'Apocalypse 10 ne se sont pas accomplis en 1963, le 28 février. Mais ce qui est merveilleux, c'est que quand Dieu le fait vraiment, quand Dieu fait quelque chose, tout le contexte s'accomplit jusqu'au dernier iota. Alors, ce n'est pas une idée. Alors, c'est une réalité. Et si de tout notre cœur, nous pouvons croire cela et recevoir, accepter cela. Regardez, les gens disent, le Seigneur est déjà revenu. Et ils le prétendent avec toute puissance et force. et ils nous font le reproche de l'avoir loupé, manqué, et que nous n'avons pas reconnu que le Seigneur serait déjà revenu. Il y a une chose que je veux vous dire, je l'ai dit déjà plusieurs fois, tout ce que Dieu fait n'est pas un enseignement vide, c'est une réalité. Quand Jésus reviendra pour prendre les siens auprès de lui dans la gloire, cela sera une réalité. Quand il se révélera, comme c'est écrit dans Apocalypse 10, il se manifestera, cela sera aussi une réalité. Alors, aucun homme, on n'a besoin d'aucun homme, il est nécessaire d'aucun homme pour interpréter cela. Non, alors cela va s'accomplir comme cela est décrit dans Apocalypse 10. Revenons à Apocalypse 5. Au verset 4, il est écrit. Alors je pleurais à chaudes larmes parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de voir son contenu. Mais l'un des veillards me dit, ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. L'agneau et ensuite le lion, les deux, rédempteur et roi. Pour nous, rédempteur, sauveur, et dans le millénium, il sera roi. L'agneau de Dieu qui a ôté les péchés du monde et le lion de la tribu de Juda qui brûlera en ce jour, qui rugira, pardon, en ce jour, et la terre va trembler devant sa voix. Et je veux dire, il va rugir comme cela est écrit dans Apocalypse 10. Mais cela va encore arriver. Ce n'est pas encore arrivé. Avons-nous déjà compris tout cela? Si nous comprenons cela, les autres aussi, tous les autres comprendront aussi. Si le Seigneur donne la promesse, je reviens à vous un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me reverrez. Je vous laisse, mais je vous quitte, mais je reviens, je serai avec vous et je serai en vous. Alors cela, c'est une chose. C'est un contexte, c'est-à-dire d'habiter dans les croyants, de faire sa demeure dans les croyants. Mais quand la promesse a été donnée, quand il a donné la promesse, je vais vous préparer une place et qu'ensuite je reviens pour vous prendre auprès de moi, pour que vous soyez là où je suis. Aujourd'hui, il est avec nous. Alors nous serons ensuite avec lui. Est-ce que cela est juste ainsi, correct? Oui, ça, ce sont les Saintes Écritures. Et nous allons aussi traiter le sujet des autres venus du Seigneur. Toutes choses dans leur contexte et à leur place. Et ce qui est écrit en relation avec la venue bien précise, cela va arriver dans le contexte écrit. Cela va s'accomplir. Je suis tellement reconnaissant à Dieu pour l'absolue clarté dans sa parole. Non, il n'y a plus rien à se poser comme question. C'est déjà si clair. Même un insensé ne peut pas s'égarer. Dieu a frayé un chemin élevé, comme c'est promis dans Isaïe 35. Les méchants ne pourront pas y marcher, les impies. Ce n'est pas possible. Ce chemin est préparé pour les racheter. C'est ce qui est écrit dans Isaïe 35. Pardon. Ce chemin est déterminé seulement aux rachetés. Et, en disant cela, je veux blesser personne. Mais je vais quand même le dire. Il y en a beaucoup qui n'ont pas encore expérimenté personnellement Dieu. Il y en a beaucoup qui admirent ce que Dieu a fait, qui en parlent, qui discutent là-dessus, sans avoir fait une expérience personnelle de ce que Dieu a fait. Ils font que l'admirer, sans avoir expérimenté Dieu personnellement. Et c'est là qu'il y a le grand problème. Et c'est à cause de ça qu'il y a tant d'orgueil qui se fait voir. Et c'est peut-être raison qu'il y a trop de propres pensées et toutes ces choses qui se font voir. Si nous nous attendons à une dernière action de Dieu, alors pas seulement un enseignement, par un enseignement, comment est-ce que nous voulons enseigner les pécheurs? Comment voulons-nous remplir des personnes d'un vin nouveau qui ne sont pas encore nées de nouveau et transformées, changées, renouvelées? Non, je crois que Dieu, à la fin, fera une œuvre entière, que les gens seront saisis intérieurement, profondément, et expérimenteront une vraie conversion. Ils seront apportés en communion réelle avec Dieu et se soumettront à la conduite de cet esprit direct et que leurs voies personnelles cesseront, leurs propres pensées prendront fin et qu'ils marcheront sur le chemin de Dieu. C'est très clair pour tous ceux à qui Dieu l'a révélé. Le jour de la Pentecôte, le Seigneur vint sur les rachetés pour habiter en eux, pour établir sa demeure. Et nous sommes ressuscités avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Mais ce n'était pas encore la première résurrection qui aura lieu lors du retour de Jésus-Christ. Toutes ces choses-là doivent être observées dans leur contexte. Dans leur contexte. Il y en a qui prétendent que la première résurrection a eu lieu avec notre nouvelle naissance. C'était une résurrection, c'est vrai, avec Christ. Mais ce n'était pas la résurrection de ceux qui se sont endormis en Christ, où la mortalité aura revêtu l'immortalité et la corruptibilité, l'incorruptibilité. Mais il s'agissait de la vie nouvelle que Dieu a mise en nous. Je vais vous lire ça de Romains 6. Ici, il est décrit, Romains chapitre 6. En fait, il m'a été dit qu'il y a des frères et sœurs qui veulent se laisser baptiser. Et c'est peut-être raison que c'est bien que maintenant on lise Romains 6. C'est comme donné, Romains chapitre 6, à partir du verset 3. Romains 6, verset 3. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés dans le Christ Jésus, nous avons été baptisés dans sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que comme le Christ a été ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous marchions nous aussi en nouveauté de vie. Car si nous avons été faits une même plante avec lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Pas une résurrection semblable. Aussi une parole très claire. D'un côté, mort avec lui, enterré, enseveli avec lui, pour ressusciter avec lui, pour marcher en nouveauté de vie. Et ensuite, nous avons lu, c'est ainsi que nous le serons aussi en rapport à sa résurrection. Tout à sa place. Nous sommes crucifiés avec Christ, morts avec lui, et par le baptême, baptême, nous symbolisons que nous nous laissons enterrer, ensevelir avec lui maintenant, dans l'eau du baptême. Vu tristement, c'est seulement des morts qui sont ensevelis, enterrés. N'est-ce pas? Si on voulait ensevelir, enterrer quelqu'un qui est à moitié mort, il allait taper, n'est-ce pas, au cercueil et demander qu'on ouvre. Je connais une ville, je crois que ça s'est passé en Allemagne. Le médecin m'a dit, il y avait un homme qui a tapé au cercueil. Et ce médecin a reçu un procès verbal, attaqué en justice parce que cela a été rendu public, que cela ne devrait pas être. Alors, si nous sommes morts avec Christ, vraiment morts, qu'est-ce que cela veut dire? Vraiment être mort à soi-même. Mort au monde, tout ce qui pourrait venir de l'extérieur, et vivre en Dieu, avec Dieu, pour Dieu. Que nous puissions dire avec véracité, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Être mort à soi-même, réellement. Ce n'est plus moi qui vis, plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Pas moi, il exécute sa volonté, il fait sa volonté et nous sommes seulement à sa disposition. Mais cette mort, c'est pas ma mort naturelle. Dans ce corps, je vis encore dans le corps. Quoique vu spirituellement, je suis mort à ce monde. C'est ainsi aussi avec la résurrection. Nous portons encore ce corps terrestre en nous. Mais quand la résurrection viendra, alors la corruptibilité revêtra l'incorruptibilité et la mortalité l'immortalité. Et nous serons changés. Tout à sa place, dans le contexte correct, à la lumière de la Bible et dans l'expérience personnelle. Comme c'est merveilleux. C'est merveilleux d'avoir trouvé grâce devant Dieu. Comme c'est merveilleux de savoir qu'il nous a vraiment révélé sa parole de manière claire et vraie. Je sais que nous ne l'avons pas mérité. Mais ça, nous le savons tous. Je ne suis sûrement pas le seul. Ça, nous le savons tous. C'est par grâce que nous avons été sauvés. C'est par grâce que nous avons cru, que nous sommes devenus croyants. C'est par grâce que nous avons reconnu le Seigneur. C'est par grâce que nous avons reconnu le message pour cette heure. C'est par grâce que nous n'avons rien ajouté à ce message. C'est par grâce que nous n'avons rien retranché. Par la grâce, nous avons replacé le message dans les Saintes Écritures et nous l'avons apporté dans les contextes dans lesquels les choses ont leur place d'être. Ça, ce n'est pas nos mérites. C'est la grâce de Dieu. Ce ne sont pas nos mérites. Et avec un cœur vraiment touché, je pense au dernier verset, je crois que c'est dans Genèse chapitre 7 ou bien 8, où il est écrit que Noé fit tout exactement selon la parole de l'Éternel. Ça, c'est mon désir de faire exactement tout selon la parole du Seigneur. Ce désir est ancré si profondément en moi. C'est une partie intégrante de ma vie, de mon cœur, de moi-même. Si nous voulons subsister devant Dieu, et qu'il puisse répondre, et si nous voulons qu'il réponde et qu'il confirme, alors il faut que tout ait été fait selon sa parole. Si ça n'a pas été fait selon sa parole, en accord avec sa parole, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que Dieu assume une responsabilité. Il ne va pas non plus répondre et confirmer. Comme une fois, Frère Branham l'a dit. Exactement comme autrefois, Élie l'a dit autrefois, à peu près, pour que le peuple puisse reconnaître que tu es le vrai Dieu en Israël et que je suis ton esclave serviteur et que j'ai fait cela selon ta parole et que j'ai fait cela selon ta parole, en accord avec ta parole. Alors, si nous voulons expérimenter la dernière action avec Dieu, c'est absolument nécessaire de faire toutes choses et ordonner toutes choses conformément à sa parole. Dieu est un Dieu d'ordre. L'ordre ne veut pas dire que dans l'église, on peut dormir et qu'on n'a pas le droit de dire « Amen ». Ça pourrait être un ordre humain. Mais l'ordre divin est là où tout est ordonné selon sa parole. Et là aussi, on peut dire « Amen et Alléluia » à cela. Car c'est la grâce de Dieu, ce que nous avons expérimenté avec lui. Écoutez, vous qui voulez vous laisser baptiser, nous avons ici la possibilité, on peut toujours baptiser. Et nous croyons qu'on doit baptiser le plus possible, tel que c'est conforme aux Écritures. Il est écrit dans les Saintes Écritures. Et les deux entrèrent dans l'eau, allèrent dans l'eau, Philippe et l'Eunuque. Et Philippe l'a baptisé. Si on doit baptiser, alors on doit pouvoir être immergé. J'ai déjà déchiré des photos de baptême, moi. J'ai déjà déchiré des photos de baptême. Pour une raison bien simple. Parce qu'elles m'ont été envoyées. Elles m'étaient envoyées et... Et celui qui baptisait a un peu monté son pantalon jusqu'au genou. Et il est allé à l'eau. L'eau était seulement jusqu'à ses genoux. Et donc, celui qui se baptisait était couché. Et on l'a seulement couché comme ça dans l'eau. Il était assis, en fait. Et puis, on l'a relevé. Moi, j'aurais bien voulu garder la tête de cette personne qui baptisait sous l'eau. Non. Il y en a qui savent pas ce qu'ils font. Un baptême est quelque chose de saint. C'est un ordre du Seigneur. Un commandement. Et ce n'est pas un jeu de théâtre. Une pièce de théâtre. Mais le Seigneur a ordonné cela. Et le Seigneur lui-même est allé à Jean qui baptisait au Jourdain. Et s'est laissé baptiser là où il y avait beaucoup d'eau. Et il est écrit qu'il a prié et le ciel s'est ouvert. L'homme doit pouvoir être enseveli. Plus profond, mieux c'est. Il doit pouvoir être immergé, enseveli. Ça, c'est le baptême biblique. Pas comme je le disais justement, si quelque chose n'est pas fait bibliquement, comment voulez-vous que Dieu confirme? Alors en moi, il y a quelque chose qui tourne, c'est la détresse dans mon cœur à cause des choses de Dieu qui ne sont pas faites correctement. Et nous avons écouté la parole du Seigneur. Nous avons seulement besoin de la suivre, de la mettre en pratique, de l'obéir, de l'observer. Je crois que ce sont des frères et sœurs de la Belgique qui vont se laisser baptiser. Peut-être que directement à la fin de cette réunion, bien alors de la réunion de cet après-midi, le frère Rousse dit ici maintenant, directement après cette réunion. Je suis convaincu que Dieu nous bénira tous. Nous sommes tant reconnaissant pour vous tous, pour la parole, fondamentalement pour tout ce qui a été fait, pour ce que Dieu a déjà fait et pour ce qu'il fera encore. Dieu n'a pas fini. Mais l'œuvre qu'il a commencée, il l'achèvera pour le jour de Jésus-Christ, notre Seigneur, pour le jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, ce sera... Il y aura une église tout à la fin. Elle sera sans tache, sans ride irréprochable. Un avec lui. Un les uns avec les autres. Les uns avec les autres. Nous en lui et lui en nous. Totalement un. entièrement un dans l'amour divin. Dans la parole, un, une foi, un seul baptême, tout un. Tout un en Dieu notre Seigneur. Avons-nous compris cela? Le Seigneur a promis de revenir pour habiter en nous. Cela a lieu depuis la Pentecôte dans tous les vrais croyants, avec tous les vrais croyants. Il a promis à tous les croyants, je vais vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Et quand je les aurai préparées, alors je reviendrai pour vous prendre auprès de moi, pour que vous soyez là où je suis. Maintenant, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et quand la fin du monde, si la fin du monde est venue, quand il sera venu, alors il nous prendra auprès de lui. Et nous serons auprès de lui. Chez lui, alléluia. Loué soit son saint nom. Amen. Levons-nous pour la prière. Père céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour ta sainte et précieuse parole. Nous pourrions embrasser la Bible. Nous aimons ta parole. Elle est vivante. Elle est précieuse. Elle accorde de la lumière, la clarté, la vie. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur de ce que tu nous as conservé la Bible, cette Bible, et que tu nous as accordé la clarté. Nous te demandons pour tous les frères et pour toutes les sœurs qui ont été apportés dans des détresses, qui sont devenus la merci, le sacrifice de toutes ces différentes interprétations, que tu puisses les en arracher, leur accorder la clarté par ta parole et par ton esprit. Mon Seigneur, fasse en sorte que Satan échoue toutes ses entreprises. Amen. Et que tu puisses établir ton règne parmi ton peuple. Bénis aussi ceux qui vont se laisser baptiser. Nous te remercions de tout notre cœur pour cela. De ce que tu parles encore. Et qu'il y a des hommes qui sont prêts à suivre le chemin biblique. À toi le Dieu vivant, nous t'exprimons la reconnaissance pour tout. Dans le saint nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ, du Fils de Dieu. Seigneur fidèle, que tu puisses avoir ton chemin avec nous tous. Reçois ce qui te revient le plein droit. Et bénis-nous dans le saint nom de Jésus. Amen.